à Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question d'un des promoteurs d'une éducation renouvelée, Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes qui ont tant fait au Québec, ici et à travers le monde. Et Saint Jean-Baptiste de La Salle, un prêtre, même un chanoine, est mort en 1719, c'est donc pas d'aujourd'hui, que date cette idée d'établir des écoles qui peuvent vraiment aider les enfants délaissés, les enfants pauvres, et les former, et en arriver finalement à l'enseignement supérieur et à un excellent enseignement. Et les Frères des écoles chrétiennes, fils de Saint Jean-Baptiste de La Salle, ont produit des frères admirables, extraordinaires, de très grands éducateurs. Nous devrions le reconnaître avec plus de fraîcheur, je dirais, plus d'enthousiasme. Saint Jean-Baptiste de La Salle est né le 30 avril 1651 à Reims, en Champagne, où il y a cette belle cathédrale de Reims qui malheureusement a été abîmée et refaite en particulier. Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est l'aîné des enfants de Louis de La Salle et de Nicole Moët, qui habitaient un hôtel particulier, remarquable, très beau, en pierre, à Reims. Donc, une famille à l'aise. Sa mère, Nicole Moët, porte le nom même d'un champagne reconnu, moi, Chandon. Alors, il montre, lui, ce cher petit bonhomme, très très jeune, sa passion pour les belles cérémonies. Il aime ça, les cérémonies liturgiques. J'ai vu d'ailleurs ces derniers jours, durant les jours saints, des cérémonies remarquables à la cathédrale de Montréal, le soir du samedi saint. C'était de toute beauté. La veille, l'après-midi, l'église Notre-Dame, extraordinaire l'office du vendredi saint, impeccable. Et le jeudi saint dans ma paroisse natale, à Sainte-Madeleine d'Outremont, j'étais très très bien avec un nouveau curé, un jeune curé. Tout était à point. Vraiment, il se fait de belles choses. Et lui, bien, cet enfant-là, il aimait ça. Au point qu'il s'amuse chez lui à refaire un peu ça dans son petit oratoire. Oh, bon, c'est pas un simple jeu, il fait pas ça pour s'amuser seulement, mais pour prier, puis pour se recueillir. Et puis, il demande à sa grand-mère de lui lire la vie des saints. En voilà un autre qui est formé par la vie des saints. La vie des saints, ça aide, hein? C'est pour ça que Radio Ville-Marie vous offre ça tous les jours, à 10h le matin, 10h le soir. Puis, Jean-Baptiste de La Salle se fait un plaisir très très jeune de servir la messe presque chaque matin. Hein. On aimait donc ça, servir la messe dans les années 30 quand nous étions jeunes. Hein. Et on faisait pas ça pour le Saint-Sou qu'on nous donnait, mais on aimait ça. On aimait ça, tout simplement. Et il était comme ça, lui. Et pendant les mois de vacances, en été, il va chez son grand-père Moët, M-O-E-T, n'est-ce pas, Jean Moët. Et qu'est-ce qu'il fait avec lui de temps en temps? Ben, il récite avec lui, comme les moines, là, l'office du jour, vous savez, le bréviaire, si vous voulez. C'est tout un grand-père. Hein? Et Jean-Baptiste de La Salle apprend donc à aimer toutes sortes de choses sérieuses, et particulièrement le recueillement de la prière intime, puis la lecture des vies des saints, et d'autres livres qui lui apportent des valeurs que l'on veut, semble-t-il, retrancher de nos écoles. Inconcevable. C'est avec ses parents, qui sont de la haute bourgeoisie, et sous la direction d'un précepteur, vous savez, les familles à l'aise, bourgeoises, avaient un précepteur à la maison, que le jeune Jean-Baptiste de La Salle apprend ce qui est nécessaire pour aller dans un collège. Alors, quand il est prêt, ben il est envoyé dans celui qu'on appelle, c'est assez curieux, le collège des bons enfants, bon, à Reims. Et il est externe au collège, c'est-à-dire qu'il ne couche pas là, il rentre chez lui après les cours, et Jean-Baptiste n'y passe que donc les 6 heures de classe. Je faisais ça à Brébeuf, j'étais externe moi aussi. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, ça nous permet d'être toujours auprès de ses parents, de ses frères, dans sa famille. Sa formation morale reste toujours sous l'influence donc de sa famille, et puis à 18 ans, il quitte le collège, et il est maître sard, à 18 ans. Mais savez-vous que déjà, Il s'est donné à Dieu. Comment ça? C'est que le 11 mars 1662, à la fin de sa 11e année, donc, à 10 ans seulement, il a reçu la tonsure. Ça en faisait un jeune clerc. Et puis, le 7 janvier 1667, donc 5 ans plus tard, un de ses parents, un chanoine, abandonne sa charge de chanoine à la cathédrale de Reims, ce qui lui rapporte des honoraires. Hein. Et puis, à cause de ça, bien, Jean-Baptiste de La Salle devient chanoine à 15 ans. Mais il est sérieux. Il est comme préparé, malgré son jeune âge. Hein. Hier, je vous ai parlé d'un jésuite qui, à 10 ans, était comme déjà un homme. Eh bien, lui, à 15 ans, il est déjà comme un homme. Il est un homme consacré par état à la prière publique que font les chanoines dans les cathédrales comme les bénédictins à Saint-Benoît-du-Lac ou les trappistes à Oka ou les cisterciens à Rougemont. Il se rend à l'église, prie avec les chanoines en autant que ses études le lui permettent. Et puis, ses collègues chanoines, qui sont des adultes évidemment, déclarent « Monsieur de La Salle ». On l'appelle comme ça, bien si, qu'il soit si jeune. Monsieur de La Salle est pour nous un modèle de régularité, de modestie et de candeur. Alors, il reçoit les ordres mineurs à 17 ans seulement, déjà. Les ordres mineurs, ben, c'est pas très grave, mais déjà, à 17 ans. En 1668, et puis, alors Jean-Baptiste La Salle se prépare à la prêtrise, et puis, il quitte pas pour cela la maison paternelle. Il suit des cours de théologie à l'université de Reims pendant un an, puis, en 1670, Jean-Baptiste Lassalle perd son grand-père, son ami avec lequel il priait, Jean Moët de Brouillet, qui a eu une grande part dans sa formation chrétienne. Et peu de temps après, ben il part à 19 ans pour Paris. Il veut obtenir sa licence et son doctorat en Sorbonne à l'Université de Paris en théologie. Et son père, Monsieur Louis de Lassalle, dirige donc son fils vers le séminaire Saint-Sulpice à la place, qui va lui donner une règle, une méthode, une ascèse. C'est le fameux Monsieur Tronçon qui devient le directeur spirituel, directeur de conscience de ce petit Jean-Baptiste Lassalle, futur saint. Monsieur Tronçon, qui est très connu par les gens qui ont fréquenté les grands séminaires autrefois, parce qu'il était encore lu après des siècles, lui fait prendre des habitudes de discipline puis de régularité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et Saint Jean-Baptiste Lassalle lui-même est assez rigoureux, puis il observe la règle, il est exact aux exercices spirituels de toutes sortes, et surtout, il est détaché du monde. C'est un jeune noble détaché du monde. L'influence de M. Tronçon, son directeur, ne dure pas très longtemps, mais ça le marque pour longtemps quand même. Et en avril 1672, il doit quitter le grand séminaire. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est une catastrophe, parce qu'à quelques mois d'intervalle, son père et sa mère meurent. Et puis, il laisse orphelin sept enfants, dont le dernier a 6 ans seulement. Hein. Alors, Saint Jean-Baptiste Lassalle devient chef de famille. Il se demande ce qu'il doit faire au sujet de sa vocation de prêtre. Est-ce qu'il ne devrait pas se consacrer tout entier à ses frères et sœurs? Et ce n'est pas l'avis de M. Tronçon ni la décision du chanoine Nicolas Roland, un homme remarquable, un chanoine de feu, qui est son nouveau directeur de conscience, le chanoine Roland, homme remarquable, vraiment, vraiment remarquable, d'ailleurs lui donne l'exemple du renoncement puis du dévouement pour la formation des maîtres d'école, les futurs frères. Il faut avoir des vrais maîtres d'école, c'est ce qui nous manque souvent ici pour enseigner notre foi, de façon moderne, claire, joyeuse, intelligente. Il y en a de bons professeurs, mais il en faudrait davantage. Et 40 jours après avoir quitté Saint-Sulpice, donc, le jeune monsieur de La Salle reçoit le sous-diaconat à 21 ans. Mais l'incertitude sur son avenir a cessé, d'accord, mais chaque jour, c'est très exigeant parce qu'il doit administrer les biens de ses frères et sœurs. Il faut qu'il s'occupe personnellement de leur éducation, ben, intellectuelle et morale. Il doit donc attendre 4 ans le diaconat puis la prêtrise jusqu'en 1678, à la veille de ses 27 ans. Il est ordonné prêtre. Il peut alors remplir ses obligations de chanoine, là, et reprendre ses études de théologie à la faculté de Paris. Pendant toute sa vie, contrairement à l'usage de ce temps-là, là, il ne manque très rarement de célébrer la messe tous les jours. C'était rare, ça. Les prêtres la célébraient pas tous les jours. Il est tellement recueilli, écoutez bien ça, il est tellement recueilli quand il dit sa messe là, que tous les assistants en sont touchés. Au cours de sa formation, il a la réputation d'être très fervent, très énergique et très dévoué. Il pratique le renoncement, puis il aime l'austérité. Il recherche le sacrifice. Il s'en remet à Dieu, car il sait bien, lui, que nous ne sommes que des instruments dans la main de Dieu. Or, à Paris comme à Reims, il ne pense qu'aux petites écoles, aux enfants qu'il veut sauver. Dieu va le pousser presque malgré lui dans la voie de l'enseignement populaire. Et là, nous arrivons donc à la fondation des Frères des écoles chrétiennes. C'est dire que, à peine ordonné prêtre, il doit s'occuper des écoles de Reims. Et il est aussitôt emballé. Il le fait avec zèle. Et en 10 mois, il fait approuver par l'archevêque de Reims une congrégation de sœurs, les sœurs du Saint-Enfant Jésus, c'est un bon nom pour s'occuper des enfants, hein. Et pour les garçons, c'est l'école de Saint-Maurice qu'il fonde et qu'on considère comme la première école de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes. Elle est ouverte le 15 août 1679, le jour de l'Assomption. Et 5 mois plus tard, il y a une seconde école qui est due à la générosité d'une femme riche. Elle est consacrée aux petits garçons de la paroisse Saint-Jacques, là, et 3 jeunes professeurs rejoignent Jean-Baptiste Lassalle et Adrien Niel, les 2 premiers. Alors, ils s'installent chez le curé, et lorsqu'un prêtre qu'il est allé consulter à Paris, il lui déclare « Voulez-vous vraiment former vos professeurs à la piété? Voulez-vous vraiment leur faire aimer leur état à cause du bien qu'ils peuvent faire? Alors, vous devez les loger chez vous et vivre avec eux. » Ça lui répugnait naturellement parce qu'il venait de famille bourgeoise et d'une espèce de petit château. Il avait eu beaucoup de difficultés à se soumettre à ça, mais il s'y est soumis et il a compris, puis il a aimé ses frères. Et Jean-Baptiste Lassalle prend donc son parti et durant la semaine sainte de 1681, à 30 ans, il rassemble les maîtres d'école pour une retraite dans son hôtel particulier, les amène chez lui, il se fait leur prédicateur, il leur propose d'être pour les enfants un modèle de vertu chrétienne, et c'est comme ça qu'une communauté se forme autour du chanoine de Lassalle. Alors, le 24 juin, à la fête de Saint-Jean-Baptiste, son patron, donc sa communauté qui est installée là dans son hôtel particulier, s'installe maintenant complètement dans une belle maison. Un an plus tard, donc, dans une maison à eux. Saint-Jean-Baptiste Lassalle arrive vite à se convaincre qu'il ne pourra plus parler à ses frères, de renoncement puis de pauvreté, s'il n'en donne pas l'exemple lui-même, c'est élémentaire. Et puis aussi, il lui paraît impossible de concilier les obligations de chanoine à la cathédrale et la direction de la communauté. Alors, en 1683, il démissionne comme chanoine. Et puis, en 1684, il distribue aux pauvres, il y a 34 ans, il distribue aux pauvres, pendant une période de famine, tout ce qu'il possède. Il se fait pauvre. Et les maîtres d'école savent, à partir de ce moment-là, que, en dehors de la voie des conseils de perfection, ils n'atteindront jamais leur but. Ils décident donc de demander une règle religieuse. Et la congrégation nouvelle, là, apparaît. Les frères s'engagent pour une année, et par un seul vœu, c'est curieux, celui de l'obéissance. Le seul vœu. Il y a 12 disciples avec Saint-Jean-Baptiste Lassalle. Ça commence avec 12, comme Jésus avec ses 12 apôtres, on pourrait dire. Et il prononce ce vœu le jour de la fête de la Sainte Trinité. Et au début de l'hiver suivant, le costume est fixé. C'est une soutane de serge noire, un rabat blanc, le manteau des paysans de Champagne, et puis qui est aux manches vides. Hein. Ils portent les manches sans les mettre. Alors, c'est pour ça qu'on les appelait les frères quatre bras. Il porte un tricorne aussi, le beau tricorne plat à large bord, hein, c'était sensationnel. Il le portait encore quand j'étais jeune, avec les souliers des gens du peuple. Et les membres de la petite société prennent le nom de frères des écoles chrétiennes, et pour mieux marquer à chacun d'entre eux qu'ils se séparent du monde en entrant chez les frères des écoles chrétiennes, eh bien, ils décident de quitter leur nom pour prendre, avec l'habit religieux, un nom de religion. Malheureusement, parfois, ils prenaient des noms un peu curieux, hein, il faut le reconnaître, c'est dommage. Et dans les premiers temps, l'habit que le fondateur, malgré la situation de sa famille, occupe à Reims, une famille bourgeoise, très connue, eh bien, il a lui-même revêtu avec les frères, bien qu'il soit prêtre, paraît étrange, misérable et ridicule, il a l'air étrange avec ce vêtement-là, et ceux qui le portent font rire d'eux. Mais peu importe, pour Saint Jean-Baptiste de la Salle, ça n'a pas d'importance. La prière longue et intense est la base solide de chaque journée, et il ne s'intéresse pas à ce qu'on peut penser de lui. De toute façon, il se fera des ennemis pour vouloir faire du bien. C'est ce qui arrive souvent. Il aura à souffrir beaucoup. C'est pour lui sa consolation dans les moments d'incertitude. Et souvent, Saint Jean-Baptiste de la Salle prolonge la nuit son oraison, soit dans un petit endroit très pauvre, là, qui est caché sous le toit, c'est glacial en hiver, c'est brûlant en été, soit auprès du tombeau de Saint-Rémy. Vous savez, Saint-Rémy qu'on a fêté, le pape y est allé l'an dernier, là, l'évêque de Reims. Et puis, chaque vendredi même, il se fait enfermer près du tombeau de Saint-Rémy pour prier jusqu'au matin. C'est Saint-Rémy qui a baptisé Clovis, qui aurait fondé la France chrétienne. Il résiste au sommeil, qui l'accable. Il prie toute la nuit, mais sa santé est délicate quand même. Il y a de la misère avec la nourriture grossière de la communauté. Il est habitué à une nourriture délicate, préparée par de bons cuisiniers, dans son hôtel particulier, chez ses parents. Mais l'humilité par excellence, la vertu que Saint Jean-Baptiste de la Salle prêche d'exemple. Et en plus ça, c'est un homme doux, c'est un homme affable. Même pour les gens qui l'achalent, je dirais. Il porte des habits usés et rapiécés. Il recherche des travaux pénibles et humiliants. Il veut, en 1686, abandonner ses fonctions supérieures, puis il obtient de ses frères là qui lui nomment un successeur. Alors, ils choisissent pour le remplacer le frère Henri Lheureux, qui n'est pas prêtre, le frère Henri Lheureux. Saint Jean-Baptiste de la Salle se fait aussitôt, lui qui est prêtre, très obéissant. Très obéissant devant ce jeune frère qui, je le répète, n'est pas prêtre. Mais l'évêque de Reims, lui, n'entend pas ça comme ça, il s'étonne. Il s'étonne de cette situation qu'on trouve anormale dans ce temps-là, surtout. Un prêtre de grande famille qui fonde une congrégation puis qui obéit à un simple frère. Alors on annule l'élection du jeune frère. Puis on oblige le prêtre fondateur Saint Jean-Baptiste de la Salle à reprendre la direction de sa communauté. Mais les frères sont quand même émus par un tel exemple d'humilité. Et ils s'associent aux pensées, puis aux prières, puis aux mortifications, puis aux pénitences de leur directeur. Ils l'admirent, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et quelques-uns, au début, n'en peuvent plus, mais d'autres viennent, et puis pas seulement des pauvres petits profs ordinaires, là, mais aussi des membres des familles les mieux placées qui peuvent devenir de très grands professeurs et qui sont très bien placés dans la région. Puis peut-être qu'aussi des petits pauvres deviennent aussi de grands professeurs petit à petit, qui sait, hein? Et tous ces gens ensemble, en dépit des différences à l'époque, c'était important, les différences de classe sociale ou d'origine, mais ils veulent se dévouer auprès des enfants pauvres. Et quelques-uns en meurent, de 1681 à 1688, sur les 15 premiers frères, imaginez que 6 au moins meurent prématurément avant leur 30e année. Leur courage a un grand ascendant sur leurs condisciples. Deux créations viennent compléter l'œuvre, à savoir, il y a d'abord un petit noviciat avec une vie séparée pour une règle plus douce, là, où des jeunes garçons de 14 ans sont reçus, ça se faisait il n'y a pas longtemps encore, formés et instruits pour entrer vers 17 ans dans la communauté. Puis, la plus ancienne de toutes les écoles normales, savez-vous ça, la plus ancienne de toutes les écoles normales, est fondée aussi en vue de former des maîtres pour les écoles de campagne. Et ainsi, les frères des écoles chrétiennes, fondées à Reims, apparaissent comme des gens qui deviennent de plus en plus puissants dans le milieu de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Ils ont l'esprit de pauvreté et ainsi ils sont puissants. Alors, Saint Jean-Baptiste Lassalle pense que son œuvre ne doit pas paraître attachée au diocèse de Reims. Et si son œuvre était établie à Paris, peut-être que son œuvre répandrait alors ses œuvres beaucoup plus facilement à travers la France. Il pourrait répandre ses écoles à travers toute la France entière. Hein? Alors, il en a d'ailleurs fait la promesse au curé de Saint-Sulpice à Paris. Il confie la communauté de Reims, donc, au frère Henri Leroux, là, qui lui avait succédé quelque temps. Et il part donc à pied avec deux frères pour Paris, où il arrive au mois de février 1688. C'est en quelque sorte une œuvre nouvelle qu'il va créer au prix d'efforts et de grandes douleurs. Or, je vous raconterai pas tous les problèmes, mais Dieu va le soutenir. Dieu ne l'abandonnera jamais. Des écoles de charité établies par M. Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens, dans la paroisse Saint-Sulpice, il n'en reste qu'une seule. Oh, elle fonctionne pas, les bâtiments sont délabrés, il y a une absence de discipline, on a oublié la prière, la piété, on travaille de façon très irrégulière. Alors parfois, M. de Lassalle doit faire la classe lui-même. Et le succès qu'il obtient se tourne contre lui, et le curé, jaloux, et songe à le renvoyer à Reims. En janvier 1689, M. Baudran, directeur spirituel de M. de Lassalle, devient curé de Saint-Sulpice. Alors, l'œuvre des frères des écoles chrétiennes a une année de développement tranquille, enfin. Et on ouvre rue du Bac, la fameuse rue du Bac, une seconde école, qui nécessite l'aide d'autres frères qui viennent de Reims. Puis des difficultés inattendues s'élèvent. Il y a le costume des frères qui paraît étrange. Et M. Baudran entreprend de le faire abandonner. Qu'est-ce qui se passe? À cette occasion, le fondateur manifeste sa ténacité, doucement. Il écrit un mémoire éloquent pour la conservation du costume. Il définit avec humilité la communauté des écoles chrétiennes, puis il décrit l'habit adopté en insistant sur les inconvénients du changement général et particulièrement pour les frères, dont l'habit est en usage depuis 5 ans. Puis il rappelle, c'est un bon avocat, hein? Il rappelle enfin comment M. Vincent, Saint-Vincent de Paul, a jugé qu'un habit spécial est nécessaire pour retenir les sujets dans sa congrégation. Et il soutient enfin qu'à plus forte raison, cela est indispensable dans une communauté dont les sujets sont peu instruits. Alors M. Tronson, alors supérieur de Saint-Sulpice, là, approuve. Il soutient Saint-Jean-Baptiste Lassalle. On essaie de s'entendre. Les frères gardent leur soutane, mais leur supérieur est obligé de reprendre l'habit des prêtres. D'autres embarras moins intimes et plus bruyants viennent encore entraver le progrès des écoles de charité. On veut leur fermeture. Je vous raconte pas tout ce qui se passe, mais en tous les cas, il y a un appel au Parlement contre la fermeture des écoles. Ça a gain de cause et les écoles de Saint-Sulpice sont rouvertes. Il se passe bien des problèmes. Mais finalement, de nouveaux novices se présentent. Il faut créer, à Vaugirard, un vrai noviciat pour lequel M. Baudran refuse les subventions nécessaires et pendant près d'une année que dure cette opposition. M. de Lassalle jeûne tous les jours. Il endure des douleurs cruelles, de rhumatisme. Et enfin, la cause des frères est gagnée devant l'archevêque de Paris. Nous revenons donc à Saint Jean-Baptiste de Lassalle, qui enfin obtient la paix auprès de son évêque. Le noviciat de Vaugirard est, pour la fondation de Saint-Jean-Baptiste de Lassalle, comme un second berceau, hein. Et ils ont des vocations solides qui peuvent se former, durables, dans toute la ferveur d'une vie religieuse intense. Ça prend ça pour faire des vrais professeurs chrétiens. Et le fondateur commence donc à recueillir le fruit de ses prières et de ses efforts. Le nouveau curé de Saint-Sulpice décide de pourvoir désormais heureusement plus largement aux besoins là, des classes, et puis de fonder des écoles nouvelles, et puis de transporter à Paris le noviciat trop étroit dans la maison de Vaugirard. Et là, on entre alors dans une période de développement, mais surgissent des épreuves de toutes sortes. En effet, pendant les 20 dernières années de sa vie, rien n'a été épargné à Saint-Jean-Baptiste-Lassalle. Le récit que je pourrais vous en faire ne serait qu'une répétition de toutes sortes de grandes épreuves. C'est répétitif, ça n'en finit plus. Mais aussi des progrès fructueux, car il a le courage et Dieu est avec lui. Le fondateur est trahi, il est renié, il est persécuté. Oui, Saint Jean-Baptiste est même condamné, déposé, proscrit. Et malgré cela, les écoles se multiplient à Paris puis en province. Un peu de tous côtés, dans toute la France. D'abord, tout est bien. La communauté rentre dans Paris pour s'établir, là, aussi pauvre, mais plus au large. Près du couvent des Carmes, où est installé maintenant l'Institut catholique de Paris, là. Dans une demeure assez vaste qu'ont habité des moniales, c'est probablement ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel de l'abbaye. Et les frères y sont restés jusqu'aux confiscations de 1791, au moment de la Révolution française. Dans la paroisse de Saint-Sulpice, les écoles chrétiennes sont florissantes. Ils ont 14 classes. Ils ont plus d'un millier d'enfants. Et la bonne tenue des écoliers attire bien des familles, mais ça suscite encore la jalousie des maîtres des petites écoles. Et après, les écoles chrétiennes s'ouvrent des écoles normales. Des écoles normales pour la formation des maîtres d'école de la campagne. Une fondation qui devient un modèle, d'ailleurs. Et c'est l'école du dimanche. Cette école du dimanche, qui est un modèle, elle est ouverte à ceux qui, la semaine, travaillent dans des ateliers. Elle réunit plus de 200 jeunes gens, âgés de moins de 20 ans. Et l'entreprise est compromise. Comment ça? Par ceux qui en ont la charge. Le fondateur a encore la douleur d'être regardé comme la cause de ce désastre et on se met à persécuter Saint Jean-Baptiste Lassalle encore une fois, pour des motifs variés. Et cette persécution doit le poursuivre jusque sur son lit de mort. Et c'est terrible la jalousie. Pourquoi tant de jalousie? Ceux qui le protégeaient se retournent contre lui. Et plusieurs fois, le curé de Saint-Sulpice a rejeté comme trop sévère la discipline du noviciat des frères des écoles chrétiennes. Et il a cherché changer les règles de l'Institut en plaçant les frères des écoles chrétiennes sous l'autorité des curés de paroisse. De son côté, Saint Jean-Baptiste Lassalle insiste pour maintenir indépendante sa communauté, dont la régularité, là, puis fait la force. Hein. Un incident fait éclater le conflit encore une fois. Puis là, l'archevêque de Paris lui fait une déclaration terrible, inattendue, et lui dit, « Monsieur de Lassalle, vous n'êtes plus supérieur. J'ai pourvu votre communauté de quelqu'un d'autre. » Le coup est rude. C'est imprévu. Le pauvre Saint Jean-Baptiste Lassalle doit accepter la sentence, sans même demander pourquoi. Il rentre calme parmi ses frères pour prendre le dernier rang. Quelques jours après, l'enquêteur, le vicaire général Pirot, revient présenter à la communauté un monsieur Bricot comme supérieur désigné par l'archevêque de Paris. Alors les frères déclarent qu'ils ne peuvent accepter d'autre supérieur que Saint Jean-Baptiste Lassalle, que monsieur de Lassalle qui est là, présent. Lui, il se jette à genoux. Et les mains jointes, il les prie de se soumettre aux ordres de Monseigneur. Alors eux, ils l'entendent pas de la même façon, sont jeunes, sont vigoureux. Ils lui répondent qu'ils lui obéiraient en toute autre chose, mais pas cette fois-ci. Non. Pas vraiment. Ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire et ils ne le feront pas, c'est clair. On voit ici l'attachement des frères pour leur fondateur. Et par suite de la stupidité des accusations formulées contre lui. Finalement, les frères obtiennent gain de cause. Ils conservent leurs règles sans changement. Et Saint Jean-Baptiste Lassalle reste leur guide. Alors ils reçoivent, seulement par bienséance, le nouveau supérieur, M. Bricot. Il chante même avec lui un Te Deum. Après quoi, il se retire. Il revient encore une fois, 3 mois plus tard, puis il ne revient plus. C'est Saint Jean-Baptiste Lassalle qui est vraiment le supérieur. Mais tout ça, c'est terrible. Je vous raconte ça pour vous montrer comme Ça n'est pas facile, la vie, quand on veut faire du bien. La terrible épreuve de plusieurs mois est ainsi terminée en 1703, en janvier, et l'Institut des Frères Écoles Chrétiennes en est sorti raffermi. Saint Jean-Baptiste Lassalle en conclut qu'il ne faut pas continuer les dures pénitences imposées aux frères, puis en regard de ces épreuves continuelles, ben, il est doux hein, de faire des fondations qui se succèdent d'année en année. Les Frères Écoles Chrétiennes se répandent partout. Monsieur de Lassalle, attiré vers Rouen par le souvenir de son premier collaborateur, va y passer quelques années fructueuses, là, pendant 6 ans, de 1705 à 1711. Et puis les premiers succès, amène à Saint-Yon la fondation d'un pensionnat qui est destiné à devenir le type de ce qu'on a nommé aujourd'hui l'enseignement secondaire moderne. L'enseignement secondaire moderne, ça vient de là. Et cet endroit est pour Saint-Jean-Baptiste Lassalle un séjour préféré. Et le temps qu'il y passe est peut-être le plus tranquille de sa vie, hein, ce n'est qu'un court répit. Car encore traversé par bien des soucis à Rouen puis à Paris. Ça n'en finit plus. À Saint-Yon, il y a une faiblesse au genou. Ça nécessite des opérations douloureuses. Mais il supporte tout ça avec sérénité. Il donne d'ailleurs dans ces occasions des exemples de patience et de résignation, ce saint. Oui, Saint-Jean-Baptiste est, selon son désir, le martyr de la pénitence. Alors, il se décide à publier des petits livres de piété composés jadis à Vaugirard, au premier noviciat, bien utile pour les maîtres et pour les écoliers. Le plus répandu a pour titre « Les devoirs d'un chrétien envers Dieu et les moyens de pouvoir s'en bien acquitter ». Ce sont des choses qu'on a tellement oubliées aujourd'hui. Quels sont nos devoirs comme chrétiens envers Dieu et quels sont les moyens que l'on peut mettre pour nous acquitter de nos devoirs envers Dieu qui nous aime tellement? On y retrouve dans ses livres, évidemment, l'esprit du christianisme de cette époque, dont il est imprégné de bonheur chez ses parents. Cet esprit qui avait inspiré toutes ses fondations. La pratique de l'humiliation lui aura fait sacrifier sa réputation. Contredit, il ne réplique pas. Démenti, il se tait. Il est comme le Christ durant la Passion. Blâmé, il ne s'excuse pas. Condamné, il ne se justifie pas. Toujours Saint Jean-Baptiste Lassalle en fait la règle de sa vie. En 1711, une persécution éclate contre lui et le rappelle de Provence à Paris. Il est accusé d'avoir extorqué un engagement en abusant d'un mineur. Il l'aurait volé. Il est condamné et défense lui est faite d'exiger des enfants mineurs de pareils engagements puis de l'argent. En 1712. Les frères eux-mêmes n'osent pas protester en écrivant à leur fondateur. Il doit croire que ses propres frères eux-mêmes l'abandonnent. Et de plus, à Marseille, tout est mis en œuvre pour exciter les frères contre le fondateur, qu'on le représente comme un homme étrange, dur, outré, inflexible. Saint Jean-Baptiste Lassalle, pourtant, est doux et bon. Il a retrouvé un peu de calme à la Sainte-Baume. Il est même allé à la Chartreuse. Il va chercher à Grenoble, donc, un endroit bien calme, où il vit séparé du monde. Une crise terrible de rhumatisme ne cède qu'au traitement déjà subi autrefois. Et pendant sa longue convalescence, il retouche quelques-uns de ses livres, notamment les devoirs du chrétien. Puis il consent à aller refaire ses forces dans un ermitage. Revenu ensuite à Grenoble, dans le sud de la France, rappelé par les prières de plus en plus pressantes de la communauté de Paris, qui l'aime beaucoup, Saint Jean-Baptiste Lassalle rentre dans la vie active en prenant part, malgré les haines, à la lutte contre le jansénisme. Et pourtant, on l'accusera de jansénisme. Des appels de la communauté de Paris l'obligent en 1714 à reprendre la route de la capitale, de Paris quoi. Et à force de persuasion, Saint Jean-Baptiste Lassalle parvient à faire accepter autour de lui l'idée de sa retraite. Il veut se abandonner son poste. Alors, on discute, puis on concerte la tenue d'une assemblée solennelle à Saint-Yon, là, au printemps de 1717, en vue de nommer un général, un frère qui administrera tout. Alors, ça y est, et déchargé désormais de toute autorité, Saint-Jean-Baptiste Lassalle et très heureux de vivre dans l'humilité. L'humilité de l'obéissance, hein, petit parmi les petits. Il voudrait vivre inconnu dans le silence, il voudrait servir l'œuvre qu'il a fondée, les frères des écoles chrétiennes, servir par la prière. Les heures qu'il a encore à passer parmi les siens à Saint-Yon ne doivent plus être qu'une préparation à la mort, dit-il, par la prière, le recueillement, par la souffrance, mais toujours la persécution qui le poursuit. Il compose alors son explication de la méthode d'oraison. Comment prier? Comment habiter le silence avec Dieu? Doux et affable, il est recherché de tout le monde, les novices en particulier, qu'il édifie par des entretiens fréquents. Les enfants, les élèves aussi de la maison, parmi lesquels il fait naître des vocations. Il y a des pensionnaires aussi qui l'aiment pour sa bonté, qui est tellement sereine. Et puis à 68 ans, durant les premiers mois de 1719, il y a des attaques de rhumatisme qui, à bien des reprises, lui ont infligé des souffrances absolument cruelles. C'est devenu de plus en plus aigu. Ses forces ne peuvent plus supporter les traitements barbares de la médecine de l'époque, hein, qui le soulageait autrefois. Le mardi de la Semaine Sainte, il se lève une dernière fois pour recevoir à genoux la Sainte Communion, le viatique, comme on dit. Et le jeudi saint au soir, tous les frères se rendent à l'infirmerie au chevet de Saint Jean-Baptiste Lasalle, qui les bénit une dernière fois et leur fait ses dernières recommandations. Quelles sont ces recommandations? C'est l'union entre eux, puis la séparation du monde. Vers minuit, il entre en agonie, puis il expire à 4 heures du matin. C'était, savez-vous, le vendredi saint, 7 avril 1719. C'est le même jour que Jésus qui est mort le 7 avril de l'an 30. Son corps est inhumé dans l'église de Saint-Sever, où l'on peut encore voir le monument élevé à la gloire de ce grand saint, de ce saint fondateur des frères des écoles chrétiennes, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui nous a laissé un message profond, à savoir que l'école catholique est une nécessité si l'on veut vraiment former nos enfants à autre chose qu'aux banalités. Si on veut les former à une foi vivante, au Christ qui est vivant et qui a fait de l'Occident une région où ont surgi des gens remarquables, comme, je dirais, celui dont je vous ai lu le 17 mars dernier cette lettre à sa femme, ce ministre du gouvernement, l'auteur de la loi 101, le docteur Lorrain, psychiatre. Et aujourd'hui, le gouvernement qui s'apprête, semble-t-il, à pencher, on ne sait pas trop, du côté de l'école neutre, eh bien, ce même gouvernement, M. Bouchard, nomme comme ministre de la Justice une femme qui est profondément catholique, engagée, profondément chrétienne, qui ne se gêne pas pour parler de sa foi avec une ardeur qui sans doute lui vient de la formation qu'elle a reçue dans une école chrétienne dans sa jeunesse, dans une famille chrétienne où ses parents ont reçu eux aussi une formation chrétienne à l'école. Et ce christianisme vivant au cœur du docteur Lorrain, au cœur de Madame Linda Goupil, ministre de la Justice, je vais vous en parler dans quelques instants, en vous demandant de faire tout ce que vous pouvez pour défendre les droits des parents, qui, lors d'une enquête de la presse, il y a quelques jours, ils ont posé cette question comme ils la posent tous les jours, Êtes-vous d'accord avec le rapport qui préconise une école neutre au Québec? Et à cette question posée jeudi, le pourcentage des réponses obtenues a été « Oui, d'accord pour l'école neutre, 23%. » « Non, 77% ne veulent pas de l'école neutre. » On peut accepter ce résultat comme un simple résultat d'enquête téléphonique. J'y reviendrai dans quelques minutes. Dans le Devoir du 18 mars, au Conseil national du Parti québécois, un journaliste était présent, Pierre O'Neill du Devoir, qui intitule son rapport de cette chose « Sortir le bon Dieu des écoles ». Alors, après avoir applaudi à la décision du gouvernement Bouchard de remplacer les commissions scolaires confessionnelles par des commissions linguistiques, les péquistes sont maintenant déterminés à franchir une autre étape, sortir le bon Dieu des écoles, prétend Pierre O'Neill. Qu'en est-il? Quand meurt le docteur Lorrain il y a quelques semaines, on a lu à l'église Notre-Dame cette lettre que je vous ai lue le 17 mars en onde. Le jour de la fête de Saint-Patrick, ce grand évêque évangélisateur de l'Irlande. Où il disait « Jésus, Dieu qui sauve, a toujours été présent en moi, bien que caché sous le voile de la foi. J'ai toujours aspiré ardemment à comprendre ces mystères joyeux, douloureux et glorieux. Mais malgré leur soif d'absolu et d'infini, les fils d'Adam ne peuvent y arriver. Alors que maintenant j'ai la joie de penser que je serai en contact direct avec le Père, le Fils et l'Esprit, et qu'au-delà de la foi, j'aurai la réponse à mes questions. » Et je baignerai dans la joie éternelle de la lumière, de la vérité et de l'amour. Si le docteur Lorrain, psychiatre, grand ministre du gouvernement du Québec, a pu écrire à sa femme une lettre, je ne vous la lis pas toute. Vous pouvez en avoir des copies à Radio Ville-Marie, vous pouvez surtout avoir la copie de la cassette du 17 mars. Vous aurez toute la lettre lue, et des passages aussi des déclarations admirables du président des évêques du Québec, Monseigneur Pierre Morissette. Mais aujourd'hui, on peut être fier de la nomination de Madame Linda Goupil, une catholique, qui, à l'aube de ses 38 ans, elle se retrouve, comme nous dit la première page de la presse hier dans un article de Nathalie Petrovski, elle se retrouve aujourd'hui avec tout ce qu'elle avait avant, son mari, ses deux enfants de 8 et 10 ans, des parents en parfaite santé, etc., etc. C'est vraiment une femme comblée par Dieu, en dépit des épreuves. Mais en plus, elle a le ministère de la Justice, celui de la condition féminine, la responsabilité de la région Chaudière-Appalaches, un siège au Conseil du Trésor et un autre au comité ministériel chargé de scruter tous les nouveaux projets de loi. Mais j'espère qu'elle saura scruter ce projet de loi qui risque de renverser nos droits à l'école où il y a l'enseignement de notre religion chrétienne catholique. Nous sommes 85% de la population les catholiques et beaucoup de catholiques qui ne pratiquent pas, qui vivent avec de nouveaux conjoints, qui vivent la misère de toutes sortes, tiennent à ce que leurs enfants reçoivent cette formation qui est celle de nos ancêtres, celle que l'on reçoit en Occident. Pour avoir cette culture profonde, à la base, sur le plan humain, qui nous permet de comprendre certaines œuvres littéraires, l'architecture, les œuvres d'art, les cantates de Bach, etc., etc. Je pourrais m'étendre là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Mais surtout, pour que certains d'entre eux comprennent que la vie a un sens. Or, cette avocate admirable qui est ministre de la Justice, elle dit qu'elle a compris très jeune que si tu t'affirmes dans la vie, tu pouvais changer la mentalité des gens. Elle a compris ça à 10 ans. À 15 ans, elle était élue présidente du conseil étudiant sa polyvalente. Mais à 18 ans, elle a eu un accident. Elle a eu un accident de voiture parce que on a découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau de la taille d'un pamplemousse. Elle a failli mourir. Mais son père, à Québec, hébété et désespéré, erre dans La ville, pendant que les médecins ouvrent le crâne de sa fille de 18 ans, sa fille chérie, une église se dresse devant lui, raconte Nathalie Petrovski. Il y entre, son père, comme on va à l'abattoir, mais non pas pour engueuler Dieu, mais pour lui offrir sa vie, en échange de celle de sa fille. Et aujourd'hui, lorsque Linda Goupil raconte l'histoire, elle le fait avec la conviction profonde que la foi et le renoncement de son père lui ont sauvé la vie, littéralement. Elle se considère donc en principe comme une miraculée, et l'accident n'a laissé aucune séquelle. Pour que nous ayons comme ça un ministre de la justice qui est cette foi profonde, c'est qu'elle a compris ce que propose l'école catholique, j'espère. L'école catholique, c'est une structure déjà en place, qui soutient les efforts d'éducation des parents qui souhaitent pour leurs enfants une éducation religieuse, et qui donne aussi cette éducation religieuse aux enfants dont les parents sont incapables de transmettre leur foi parce qu'ils ne savent pas comment la formuler. Ça répond aussi aux attentes de la grande majorité de la population, je vous l'ai dit, la population québécoise, en offrant la possibilité de suivre chaque année, quoi, le cours d'enseignement moral et religieux catholique, et celle de participer à des activités pastorales, qui témoigne d'une vision chrétienne du monde puis d'une morale évangélique. Parce que l'école catholique respecte la liberté de conscience et de religion de tous les élèves en leur permettant de choisir entre l'enseignement religieux catholique ou un cours de morale. Il est difficile d'enseigner des cours protestants, car les protestants sont tellement subdivisés que c'est très, très, très difficile pour eux. L'école catholique croit que la dimension spirituelle de la personne humaine est fondamentale, qu'elle est une source de bonheur et d'accomplissement, et qu'elle aide les élèves à donner un sens à leur vie, je vous le répète. L'école catholique enrichit la morale civile de droits et de devoirs, de la morale évangélique de l'amour. L'école catholique transmet à nos enfants, les adultes de demain, les valeurs chrétiennes qui ont forgé le Québec et en ont fait une terre d'accueil dont les atouts continuent à attirer de nombreux arrivants, on le voit. Mais l'école catholique permet à des enfants de toutes les religions et ethnies de se côtoyer dans la richesse de leurs différences et ça leur permet aussi de comprendre ce que c'est que le passé du Québec. Les enfants arrivants donc comprennent la culture québécoise tout en garantissant l'enseignement des valeurs chrétiennes à ceux qu'ils désirent. Et il n'y a rien de mal pour les musulmans et les autres de savoir un peu ce que c'est que le christianisme. Pour qu'ils sachent quelle est cette foi qui a formé notre pays, je crois qu'il faut privilégier l'enseignement religieux dans nos écoles si on veut sauver notre peuple. Ça fait partie de notre essence, je dirais. Mais je fais appel à Madame la ministre de la Justice. Je fais appel au gouvernement, à M. Bouchard qui a su si bien choisir son ministre de la Justice. Je fais appel à tous ceux, tous les citoyens, qu'ils comprennent que nous devons être comme celui qui est miraculé par Saint Pierre dans l'évangile, dans l'acte des actes des apôtres à la messe aujourd'hui, qui après être guéri, il est debout, il marche, il entre avec eux dans le temple, il marche en bondissant et en louant Dieu. Car, comme le dit le psaume, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Doit-on oublier toutes ces paroles pour ne chanter que des chansons qui n'ont pas de sens et vivre dans un monde d'absurdité? Vraiment, vraiment, gardons au moins l'enseignement religieux, même pour les athées et les agnostiques s'ils le désirent, car ils y puiseront, à travers nos mythes, comme ils les appellent, des valeurs qui leur sont, à mon sens, nécessaires.